téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Maison Lafitte pour gagner, il fallait jouer le 2, le 7, le 17, le 4 et le 14. 2, 7, 17, 4 et 14. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de 2000 ans d'histoire sur l'Arménie, aujourd'hui du génocide de 1915 à l'indépendance.
Le gouvernement turc a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens, sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes. Il faut mettre fin à leur existence.
D'histoire. En 1915, le ministre de l'Intérieur turc, Talat Pacha, déclenchait un massacre dont 90 ans après, les autorités turques continuent de nier l'existence. C'est un génocide parfait, il n'a pas eu lieu, disait ironiquement l'ambassadeur de Turquie à l'ONU en 1974. Et l'on attend encore d'un État qui souhaite entrer dans l'Union européenne qu'il reconnaisse enfin sa responsabilité dans un crime qui reste gravé dans la mémoire de tous les Arméniens du monde. Comme Henri Verneuil qui, en 1991, avait rappelé dans un film ce que fut le premier génocide du XXe siècle.
La déportation des Arméniens a été décidée par les autorités turques. Leur idée chimérique se résumait exclusivement à un vaste empire turc islamique.
Détruisant tout ce qui n'était pas purement turc.
C'est exact. D'ailleurs, le mot-clé apparaît dans un ordre lancé par Talat Pacha. Le but de la déportation est le néant. C'est-à-dire une destination d'où l'on ne revient pas.
En ce moment même, les rescapés d'un peuple assassiné, dispersés aux quatre coins du monde au hasard d'une terre d'asile, ont les yeux fixés sur vous. Et dans 1000 ans, messieurs les jurés, on parlera encore de votre sentence.
Jean-Pierre Mahé, bonjour. C'était un extrait du très beau film d'Henri Verneuil, Mayrig, l'histoire de ce qu'on n'appelait pas encore un génocide, puisque le mot n'est apparu qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, mais c'est bien sûr d'un génocide qu'il s'agissait. C'était pas d'ailleurs la première fois que les Arméniens étaient victimes d'un massacre, vous le rappelez dans votre livre. Déjà, 300 000 d'entre eux, je crois, avaient été massacrés à la fin du 19e siècle. Comment expliquer cette volonté d'éliminer les Arméniens de la part du gouvernement ottoman?
Je pense que c'est la suite de ce qu'on a appelé la question arménienne, c'est-à-dire les clauses du traité de Berlin de 1878. D'après ce traité, la sublime porte s'engageait s'engageait à faire des réformes dans les territoires occupés par les Arméniens et à en rendre compte aux alliés. Alors c'était une menace permanente d'intervention des alliés, c'est-à-dire les Russes, les puissances occidentales en général, dans l'Empire ottoman, et ça survenait à un moment où l'Empire ottoman avait déjà perdu presque toutes ses provinces en dehors de l'Anatolie et puis du Proche-Orient, l'Irak et la Syrie.
Et donc ces provinces chrétiennes pour l'essentiel, européennes, c'est-à-dire pour beaucoup d'entre elles chrétiennes.
Il y avait les provinces balkaniques, mais il y avait aussi l'Égypte et puis il y avait aussi l'Afrique du Nord. Et donc les Arméniens pouvaient, si on leur accordait l'autonomie, remettre en question, si vous voulez, la présence ottomane à l'est de l'Anatolie, et ça paraissait une menace majeure. Alors donc le gouvernement s'est dit qu'il fallait faire en sorte qu'il n'y ait plus de provinces occupées par les Arméniens. Soit que les Arméniens deviennent minoritaires, par exemple on découperait autrement les provinces, ou bien on implanterait des réfugiés justement venus des Balkans, soit par la mise en œuvre de moyens encore plus terribles qui ont été mis en œuvre au moment de la Première Guerre mondiale.
Parce qu'il y a une dimension religieuse aussi là-dedans. L'André, un extrait de film, du film de Verneuil, la volonté au fond de turquifier cet empire ottoman qui était peuplé d'une quantité de population de religions différentes, de langues différentes, au fond une espèce d'épuration ethnique, car dans cet empire turc musulman, il était question justement, les Arméniens étaient de trop en quelque sorte parce qu'ils étaient chrétiens, Jean-Pierre Maillet.
Peut-être pas parce qu'ils étaient chrétiens, parce que en réalité, en tant que chrétiens, d'abord ils avaient droit au titre de protégés en quelque sorte de l'islam. D'autre part, parce que ils étaient imposables alors que les musulmans ne l'étaient pas, et quand même les impôts c'est quelque chose d'important. Mais incontestablement, ils étaient un élément halogène sur la route de l'unification des différents peuples turcs, et je pense à l'Azerbaïdjan, et derrière l'Azerbaïdjan, à toute l'Asie centrale. Il y avait quand même une idéologie, comme on disait à l'époque, pantouranienne, qui était en train de se développer. Et les Arméniens étaient sur la route de cette idéologie.
Rassembler tous les Turcs du monde, en fait, c'était le grand projet, d'ailleurs, notamment de ce qu'on appelait les jeunes Turcs, en particulier, parce que on s'est dit, quand arrivait cette révolution jeune Turque dans l'Empire Ottoman, on s'est dit que le sort des Arméniens, au fond, serait peut-être meilleur. Pas du tout.
C'est-à-dire, les jeunes Turcs, ils avaient été formés en Europe, et peut-être croyaient-ils, d'ailleurs, avant d'être au pouvoir, qu'ils allaient pouvoir créer un État multiethnique et finalement renforcer l'Empire en reconnaissant un certain nombre de droits aux minorités. Mais très vite, ils ont été poussés par les événements à une politique ultranationaliste. Donc il faut peut-être distinguer leur position avant et après, le moment où ils accèdent aux responsabilités.
En tout cas, bref, les Arméniens sont en danger, en tout cas dans l'Empire Ottoman où ils habitent, mais ils ne sont pas que là. Ce n'est pas le cas des Arméniens qui se trouvent à l'est, justement, de l'ancienne Arménie historique, et qui, eux, ont été colonisés par les Russes dès le début du XIXe siècle. Accueillis même en libérateur, à ce moment-là, je crois, Jean-Pierre Maillet, quand...
En effet, l'Arménie orientale était, depuis le XVIIe siècle, la colonie des Perses. Et évidemment, le régime n'était pas spécialement clément à l'égard des sujets chrétiens. Et donc, la venue des Russes était attendue depuis très longtemps. Pierre le Grand lui-même avait promis aux Méliques du Karabakh, c'est-à-dire de cette région dont on, au chef de cette région dont on parle tant aujourd'hui, qu'il viendrait les aider. Catherine avait envoyé des armées. Et puis alors, après, évidemment, c'est seulement en 1829, c'est-à-dire au temps de Nicolas Ier, que le général Paskevitch a pris Yerevan. Alors donc, il a annexé l'ancienne Arménie perse, et ensuite, justement, en 1878, la province de Kars et d'Ardahan a été conquise sur la Russie. Cette conquête a été reconnue au traité de Berlin.
Alors justement, il y a les Arméniens de l'Empire ottoman menacés par la politique turque, justement, et puis d'autre part, les Arméniens de l'Empire russe, et ces deux communautés vont se retrouver face à face lorsque se déclenche la guerre de 1914. La Turquie entre en guerre aux côtés de l'Allemagne contre la Russie, et c'est ce qui est un peu à l'origine du génocide, du grand génocide de 1915, Jean-Pierre Maillet.
Est-ce que c'est l'origine ou est-ce que c'est l'occasion, hein? Voilà. C'est-à-dire, les Arméniens, les dirigeants des partis arméniens, justement, ne voulaient pas trahir leurs états respectifs. Ils s'étaient réunis secrètement avant la guerre, et la politique qu'ils avaient adoptée, c'est que chacun doit loyalement servir l'État dont il dépend. Donc, même si ça devait entraîner des affrontements avec des Arméniens russes d'un côté, des Arméniens turcs de l'autre. Mais, évidemment, la Première Guerre mondiale empêchait les puissances occidentales d'intervenir dans l'Empire ottoman. C'était donc l'occasion de régler, si je puis dire, définitivement la question arménienne.
Au début, vous le dites, donc, les Arméniens de Turquie et ceux de Russie avaient dit, ben, nous, s'étaient mis d'accord pour dire, chacun d'entre nous sera loyal vis-à-vis de l'État dont il dépend, c'est-à-dire les Arméniens de Turquie vis-à-vis de l'État turc. Je crois même, d'ailleurs, vous le dites, qu'ils se sont engagés dans l'armée turque comme le lendemain.
Ben, ils ont été mobilisés, ils ont accepté l'ordre de mobilisation.
Et puis alors, les Arméniens de Russie vont en faire autant. Cela dit, En décembre 1914, là ça va mettre le feu aux poudres, les Turcs découvrent l'existence de volontaires arméniens qui vont se battre aux côtés de l'armée russe. Et c'est ça qui va servir de prétexte au déclenchement du génocide, Jean-Pierre Maillet.
Oui, il y avait en effet une armée régulière russe, et puis il y avait de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du côté russe, des corps de volontaires qui servaient d'auxiliaires de cette armée. Et alors, bien sûr, la chose est difficile à cerner avec précision, parce que il est fort possible qu'un certain nombre de gens soient passés du côté russe de la frontière avant ou même pendant, les hostilités. Mais ça n'était pas, si vous voulez, des terroristes qui guettaient les Turcs au passage. Il n'y a pas eu de trahison ni de soulèvement en masse avant les tentatives de massacre.
En tout cas, le gouvernement turc considère du coup tous les Arméniens, y compris ceux qui vivent dans l'Empire ottoman, au fond comme des traîtres, et ça va déclencher donc des massacres. Les Arméniens considèrent toujours que la date de déclenchement du massacre, c'est le 24 avril 1915 à Constantinople, où je crois 600 Arméniens ont été déportés en Anatolie et assassinés.
Ça n'est pas exact, c'est une date symbolique, si vous voulez. C'est la date de l'arrestation des intellectuels de Constantinople. Parce que Constantinople, c'était des intellectuels arméniens de Constantinople. Constantinople, il y avait des centaines de milliers d'Arméniens, mais il y avait aussi beaucoup d'observateurs étrangers. Et donc, on ne pouvait pas les déporter massivement sans attirer l'attention. Donc, on a arrêté uniquement les meneurs. En revanche, à l'intérieur, voilà ce qu'on a fait. On a profité de l'ordre de mobilisation pour se débarrasser de tous les hommes mobilisables qui ont répondu à l'appel. On les a mis dans des bataillons de travail et on les a éliminés. Et ensuite, à l'intérieur, on a déporté les populations civiles. Pour la moitié occidentale de l'Anatolie, d'abord en train et ensuite à pied, et pour la moitié orientale, uniquement à pied, sous prétexte, en effet, de les éloigner du théâtre des opérations.
Un voyage effroyable dont la moitié des Arméniens de Turquie ne reviendront pas. Et écoutez le témoignage d'une survivante, Zepur Metskpakian, au micro de l'Abbassi Sud, France Inter, en 1995.
On a ordonné de toutes les familles arméniennes, dans 5 jours, préparer et partir à pied, 2 mois marcher, avec le soleil, avec le fer, avec le soif, surtout le soif, au mois de juin, juillet, où on a massacré déjà. J'avais 2 frères, 2 sœurs, plus petits que moi. Après 8 jours, mon frère est mort, 8 ans, à côté de moi. Je dis, maman, Kurken est mort. N'a pas pleuré, ma mère. Elle a dit, c'est bien fait, vous êtes sauvé. Après quelques jours, c'est ma mère mort. Ou pas mort, je ne sais pas. Et nous sommes tombés dessus pour pleurer. Et le gendarme est venu, allez, marchez, marchez. Et en pleurant, nous avons quitté ma mère. T'es mort ou pas mort, je ne sais pas. On n'a pas laissé même pleurer un peu.
Moi, je suis le sépeur qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et ne se plaint pas. Il s'en est pour rentrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans leur en dire rade, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Et c'était bien sûr Charles Aznavour en 75. Ils sont tombés comme la famille de Zepur Metskpakian que l'on a entendu et qui faisait donc partie de ces convois que croisaient d'ailleurs parfois les seuls témoins étrangers qui pouvaient les voir, qui pouvaient être présents en Turquie, notamment un Allemand, Armin Wegener, qui écrivait « J'en ai vu qui, saisis par la démence, mangeaient leurs propres excréments, des femmes qui faisaient cuire leurs nouveau-nés, ils étaient là, gisant entre des monceaux, de corps à demi putréfiés, apathiques, attendant la mort, fouillant dans le crottin des chevaux pour y trouver des grains de blé. » C'était terrible, hein, c'était épouvantable, rien que cette déportation, parce qu'il y a eu d'autres massacres. Mais ces descriptions, ces témoignages sont effrayants, celui qu'on a entendu aussi, Jean-Pierre Maillet.
Oui, Armin Wegener était un infirmier dans l'armée allemande et c'est à lui qu'on doit la plupart des photos effroyables de cette déportation. Mais il y a eu beaucoup d'autres témoins, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens de congrégations religieuses qui étaient là, de toute nationalité, des Scandinaves, notamment des femmes scandinaves qui ont tenu des journaux, mais aussi des diplomates, des consuls qui étaient en place. Et puis même des militaires allemands qui ont quand même rapporté quelque chose.
Et qui ont vu autre chose que des gens qui mouraient de faim ou de soif, parce qu'à côté de ça, il y avait aussi des massacres perpétrés par des gendarmes qui les accompagnaient. Il y a deux témoignages, alors, dont l'un est vraiment extraordinaire, c'est celui de Mustafa Kemal. En 1919, il n'est pas encore à la tête de la Turquie, et qui disait en 1919, « Nos compatriotes ont commis des crimes inouïs, organisé la déportation et le massacre, brûlé vifs des nourrissons, arrosé de pétrole, mis les Arméniens dans des conditions insupportables, comme aucun peuple n'en a connu dans toute l'histoire. » Et il y a aussi un autre Allemand qui écrivait qu'il avait vu des Turcs attachés ensemble des Arméniens tirer sur cette masse humaine plusieurs salves de petits plombs avec des fusils de chasse et partir en riant, laissant leurs victimes mourir dans d'effroyables convulsions. Enfin, c'était du sadisme même. Ça va au-delà d'une simple volonté d'éliminer un peuple.
C'est difficile. En réalité, le but était quand même la déportation, mais une déportation qui devait faire périr tout le monde, puisque il était prévu qu'ils arriveraient dans les déserts de Syrie et qu'on les déplacerait autant de fois qu'il faudrait pour qu'ils disparaissent. Alors, il y avait des gens qui ont attaqué les convois parce que ils pensaient que les réfugiés emportaient avec eux les dernières pièces d'or dont ils avaient besoin pour payer les gendarmes qui les accompagnaient. Et puis alors, effectivement, il y a eu aussi des compagnies d'escorte qui se sont transformées en pillards eux-mêmes.
Les Arméniens parlent de 1,5 million de morts. Est-ce qu'on peut d'ailleurs quantifier le nombre des morts? Il est assurément considérable, mais à l'époque, comme ça, à l'insu de toute la communauté internationale, peut-on établir un véritable bilan, Jean-Pierre Maillet?
Alors, 1,5 million de morts, c'est celui qui a été le chiffre qui est avancé. Moi, je crois qu'il est de toute façon supérieur à 1 million. Cela dit, on n'a pas, si vous voulez, comme dans le cas de l'Holocauste, la liste des convois avec le nom des victimes. Donc, on ne peut procéder que par évaluation. Et on est obligé de partir des archives fiscales ottomanes, par exemple, mais ces archives sont par foyer fiscal. Donc, il faut multiplier par 4, par 5, on ne sait pas exactement. Ou bien alors, on peut partir des registres des paroisses ou bien des registres des écoles. Et je pense que l'ensemble de ces convergences, de ces évaluations, conduit à quelque chose qui est nettement supérieur aux millions de personnes. Et il y a aussi une autre façon de faire le compte, c'est de dire qu'il ne reste aujourd'hui que 50 000 Arméniens en Turquie. Ben, il faut bien que la différence soit passée quelque part. Alors, il y en a qui sont réfugiés ailleurs, bien entendu, mais il y en a énormément, la grande majorité, qui est mort.
Quand on dit ailleurs cet exode, nouvel exode des Arméniens, c'est d'abord en France, mais... vous dit.
Bien, c'est-à-dire, en réalité, c'est d'abord dans les régions les plus proches de la Turquie qui perd alors la Syrie, le Liban, etc. Mais très vite, en effet, un certain nombre vont se retrouver en Grèce et ensuite en France, où on fait appel à de la main-d'œuvre. Il y a eu des autorisations de faire venir des gens qu'on a logés dans des camps militaires, par exemple à Marseille où il y avait le fameux
grosse
camp
communauté arménienne, et aujourd'hui
où
encore,
il y a toujours grosse communauté arménienne.
Alors il y a aussi la Russie, hein, puisque la Russie en 1918 proclame son indépendance, profitant du traité signé de paix signé entre Lénine et les Allemands. Cette indépendance va durer très peu de temps puisque à nouveau l'Arménie russe va être intégrée au nouvel empire, si on peut dire, russe, c'est-à-dire l'Union soviétique, dont elle devient une république dans laquelle les Arméniens se sentaient quand même évidemment mieux, on s'en doute, même sous Staline, même avec les déportations de 300 000 personnes, vous le dites, sous Staline, que évidemment dans l'Empire ottoman.
Oui, c'est-à-dire que de toute façon, les Russes avaient été toujours sentis comme des libérateurs et non pas comme des occupants. D'autre part, au moment où tout allait mal, eh bien, une seule chance de salut pour les gens qui étaient menacés de déportation ou de massacre, c'était de passer derrière les lignes russes et puis de se réfugier là-bas sur le territoire de l'Arménie russe, où il y a d'ailleurs eu des camps de réfugiés, mais avec une mortalité tout à fait effroyable. Et évidemment, malgré tout, la soviétisation, malgré toutes les violences qu'il faut évoquer, tous les drames qu'il faut évoquer, ça a été un regroupement des populations arméniennes entre elles. Et ça a été très vite la proclamation et la mise en œuvre effective d'une république arménienne dans laquelle on ne parlait que l'arménien et partout, et on avait un système d'éducation en arménien complet.
Et dans lesquels on pouvait aussi accéder aux plus hautes responsabilités en Union soviétique. Il y avait le cas de Mikoyan, il y avait, pour ce qui concerne les artistes, Khatchaturian, les artistes arméniens qui ont été encouragés. Vous me citiez même d'ailleurs un autre célèbre arménien en Russie.
Oui, le frère de Mikoyan, qui est Mig, l'ingénieur qui a construit les avions militaires qui portent son nom. Tous les citoyens étaient de nationalité arménienne et de citoyenneté soviétique. Et véritablement, il n'y avait pas de discrimination pour les nationalités.
Alors au point qu'en 1947, Staline lance un appel à tous les Arméniens du monde entier pour qu'ils viennent s'installer dans l'Arménie soviétique. Et beaucoup d'ailleurs, ils sont venus, beaucoup de Français, je crois qu'il y en a plus de 100 000 ou près de 100 000 Français qui sont partis. Alors là, en revanche, ça a été un échec total, une déception effroyable pour tous ces Arméniens de la diaspora qui sont venus s'installer en Arménie soviétique.
En effet, on ne sait pas très bien quelles étaient les arrière-pensées de Staline. C'est-à-dire, est-ce qu'il voulait faire venir des gens qui avaient des compétences techniques ? Est-ce qu'il voulait se présenter en champion de la cause arménienne pour essayer de reprendre des territoires à la Turquie ? Toujours est-il qu'il a déporté par politique de terreur, il a déporté des milliers de personnes au Kazakhstan dès leur arrivée. Et puis surtout que ces personnes arrivaient dans un pays qui était exsangue à la suite de la guerre, qui sont très très mal adaptés, et que finalement ils sont repartis parce que par hasard certains d'entre eux ont profité d'une visite de Christian Pinault pour pouvoir dire qu'ils avaient la nationalité française et qu'ils souhaitaient rentrer en France.
Et quittant donc une Arménie soviétique qui va profiter de l'effondrement de l'URSS pour proclamer son indépendance, France Inter, Christian Bobby, le 23 septembre 1980.
Les Arméniens ne veulent plus entendre parler de l'URSS. Ils se sont prononcés hier à 99% en faveur de l'indépendance de leur république. Un chiffre que même les plus optimistes en Arménie n'imaginaient pas. Sur place pour France Inter, Anne-Marie Mouradian.
Le président du Parlement arménien, Levente Petrosyan, est apparu à la télévision hier soir pour remercier le peuple d'avoir voté à une écrasante majorité en faveur de l'indépendance. Nous savons, a-t-il dit, que nous aurons à affronter beaucoup d'embûches et que l'hiver sera plus dur encore que l'an dernier. Et de fait, dans les cafés, dans les foyers, les conversations oscillent constamment entre la joie et le désabusement, entre l'espoir et l'inquiétude. Nous sommes heureux. L'indépendance, bien sûr, nous la voulions et de toute façon, l'URSS n'existe plus, entend-on dire. Mais l'indépendance, personne ne sait encore juste ce que ce terme veut dire. Yerevan, Anne-Marie Mouradian, France Inter.
Et c'était l'indépendance de l'Arménie en 1991, en fait une toute petite partie de l'Arménie historique dont nous avons parlé avec vous hier et aujourd'hui. Jean-Pierre Bey, c'est en fait, je crois, à peu près le dixième du territoire de l'Arménie dans sa plus grande expansion.
Oui, c'est surtout un territoire enclavé, et au moment où a lieu l'indépendance, c'est toujours un petit peu le cas d'ailleurs, bloqué, hein, parce que il y a un blocus qui est exercé simultanément par la Turquie et par l'Azerbaïdjan, et donc les seuls passages pour respirer, ben, c'est 35 kilomètres de frontière avec l'Iran, et puis la Géorgie, avec qui les relations ne sont pas toujours au beau fixe.
Et une Arménie, en fait, où les Arméniens sont infiniment plus nombreux en dehors du territoire arménien tel qu'il existe actuellement. La diaspora est considérable. Elle est plutôt bien intégrée, d'ailleurs, dans les pays, dans tous les pays où elle s'est installée. Et elle réclame en permanence, en gardant ses racines, hein, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce peuple aussi, c'est cette volonté, cet attachement, même si les familles sont parties depuis déjà des années, à la langue, à la religion, mais aussi cette volonté de réclamer justice, en quelque sorte, c'est-à-dire la reconnaissance du génocide par les Turcs. On se demande pourquoi Jean-Pierre Mahé, aujourd'hui encore, alors qu'il souhaite, à l'évidence, rentrer dans l'Union européenne, pourquoi il s'obstine à nier un drame dont ce gouvernement actuel n'est pourtant pas responsable. Il s'est produit il y a plus de 80 ans.
Si vous permettez, je reviens un tout petit peu en arrière pour dire que la diaspora n'est pas infiniment plus nombreuse, mais à peu près aussi nombreuse que les habitants d'Arménie. Quant à la question que vous me posez, c'est une question très obscure. Je n'en connais pas la réponse. Je pense que l'aveu d'une responsabilité si grave, je veux dire, ou d'une faute si grave, est évidemment quelque chose de très pénible. Je pense aussi que, bien qu'il n'y ait pratiquement plus d'Arméniens en Turquie, eh bien, il y a quand même d'autres problèmes qui ne sont pas résolus, qui sont le problème des Kurdes et qui sont le problème de Chypre, et que peut-être les responsables craignent qu'en avouant ce qui s'est passé pour les Arméniens, ils se mettent en position faible vis-à-vis de l'opinion internationale pour régler les problèmes actuels.
C'est pas une raison quand même.
C'est pas une raison.
Elle est importante, non, sans doute, mais comment pouvoir nier quelque chose qui...
À mon avis, c'est quelque chose qui sera intenable à la longue, hein, parce que la question est récurrente depuis 90 ans.
Merci Jean-Pierre Mahé de nous avoir rappelé non seulement aujourd'hui ce génocide, ses conséquences, mais aussi toute l'histoire de l'Arménie que l'on retrouve dans votre livre, écrit avec votre épouse Annie Mahé, « L'Arménie à l'épreuve des siècles », qui a été publié donc aux éditions Gallimard dans la collection Découvertes. À lire également trois livres de Jacques Daire-Alexanian, « Le ciel était noir sur l'Euphrate, Arménie, Les héritiers du pays oublié », deux livres donc qui sont parus chez Robert Laffont, ainsi que chez L'Armatan, « Arménie, un nom pour héritage ». Et enfin, je voudrais signaler un véritable événement, puisque c'est la parution en Turquie et en turc d'un livre sorti en France en 1999 chez L'Armatan, « Le Golgotha de l'Arménie mineure, le destin de mon père », un livre de Jean Gourégian. Vous avez pu entendre un extrait de Mayrig, un film d'Henri Verneuil, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Une bibliographie plus complète est disponible au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Thomas, Claire Destacan, Claire Tesser, Cédric Joseph Julien, Sandra Escamez et Amélie Briand. Et bien sûr à notre réalisatrice Anne Kobilac. Fin de semaine à tous et à lundi avec un programme toujours très éclectique. Lundi, les Chouans. Mardi, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, Raymond Aron. Mercredi, nous serons en direct et en public du Salon du Livre avec un grand témoin, Alain Decaux. Jeudi, à l'occasion du centenaire de sa mort, Jules Verne, dont viendra nous parler Patrick Poivre d'Arvor. Et enfin, vendredi, on terminera la semaine en musique avec Bob Dylan, John Baez et les chanteurs contestataires de l'Amérique des années 60. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
À demain, Patrick.